Je suis au fond de moi-même, entre effondré et atterré. C'est une terreur de se dire que des membres de l'Église ont engendré en quelque sorte un peuple de vies brisées. C'est une trahison évidemment de l'Évangile, c'est une trahison de la dignité humaine. C'est tellement énorme qu'il y a quelque chose presque de l'impensable.
Ce rapport marque-t-il un tournant, une étape décisive dans la lutte contre les abus sur mineurs au sein de l'Église?
Ah oui, je pense qu'il marque un tournant déterminant. Il y aura un avant et un après le rapport de la FIAF, tout simplement parce que a été exposé en toute transparence les conclusions de ce rapport. Tout le monde pourra tout lire, comparer. Et cela, c'est une étape décisive en soi. Et ce qui marque aussi cette étape, c'est que ce soit une commission indépendante, et à mon avis, seule une commission indépendante pouvait faire un tel travail sur l'œuvre de mort de ces vies brisées. Les victimes sont à la fois au cœur du rapport, leur douleur est partout dans les pages du rapport, mais aussi leur expertise est extrêmement présente. Et ça aussi, c'est un tournant décisif.
Au cœur de ce rapport, la douleur des victimes, mais aussi le caractère systémique des abus.
C'est cela, c'est-à-dire que c'est chaque vie brisée, mais encore une fois, c'est un peuple qui est brisé dans l'Église. Des hommes religieux, prêtres ou religieux non prêtres ont pu provoquer cela et que toute l'institution, toutes les institutions dans la vie religieuse, dans les diocèses, n'ont pas pu, n'ont pas su, parfois n'ont pas voulu empêcher cela. C'est une tragédie à l'intérieur de la tragédie. C'est-à-dire que si nous atteignons des tels chiffres, c'est bien parce que la plupart de ces agresseurs n'ont pas été arrêtés dans leur crime. Si vous voulez, c'est à la fois le visage de toutes ces victimes, mais c'est aussi celui d'une institution dans laquelle je vis, que j'aime, qui est mon Église, qui là nous est révélée quand même dans, plus que dans une défaillance, mais aussi dans une faillite, et parfois dans une lâcheté, et parfois même dans une complicité.
Le rapport présente 45 recommandations, notamment une refonte de la gouvernance de l'Église et une attention particulière à la sacralisation excessive de la figure du prêtre. Quelle est la plus essentielle?
Tout est essentiel ici, parce que là aussi les choses sont en système. Nous savons bien, dans tant et tant d'histoires d'abus, combien la figure du prêtre, son caractère d'autorité sacrée, le fait d'être dans une position de surplomb, a participé à l'aveuglement des proches, en particulier des parents ou des proches, parfois y compris des proches religieux-religieuses, quand il s'agit de religieux ou de religieuses qui ont été abusés et agressés sexuellement. C'est-à-dire que voilà, cet homme avait tout pouvoir. Je pense à une sœur agressée pendant de nombreuses années par un père et qui me disait, mais dans la communauté, on disait, mais il faut faire la volonté du père. Et en parlant du père, c'était pas notre père qui est aux cieux. C'était le prêtre abuseur. Cette sacralisation a des effets désastreux. Elle peut avoir des effets criminels. Après, la question de la gouvernance, on voit bien qu'il nous faut absolument repenser cette gouvernance, non pas pour tout remettre à plat, mais pour voir comment créer des instances de contrôle, comment empêcher l'entre-soi, pour qu'il y ait de l'altérité, le plus possible, parce que l'altérité permet une vigilance.
Vous disposez aujourd'hui d'un outil de près de 500 pages, fruit de 2 ans et demi de travaux que vous avez demandé avec les évêques de France. Comment allez-vous l'utiliser ?
Devant une telle catastrophe, je pense qu'il faut commencer par se taire, par se recueillir profondément, par s'abaisser, par s'humilier avant toute chose. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut commencer à travailler. Après, il nous faut seuls, ensemble, lire ce rapport, lire les recommandations pour voir comment, du côté de la vie religieuse, nous pouvons, nous devons nous en saisir. Et après, nous présenterons ce qui nous paraît urgent, et Dieu sait s'il y a des choses urgentes, à notre Assemblée Générale de novembre prochain à Lourdes, pour proposer au vote de l'Assemblée Générale des décisions qui nous apparaissent fondamentales, là, maintenant, en particulier sur les questions de justice réparatrice et donc de réparation de ce qui est irréparable.